Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Pourquoi tu cries ? Nos engagements intimes avec Jean-Marc Ega du comité Mamega.
Alors là, c'est la bibliothèque des enfants que vous pouvez voir. Alors là, c'est mise à la disposition des enfants. Alors il y a une variété, donc, et pour nous, l'intérêt, ce n'est pas de les contraindre à prendre les livres, c'est qu'il faut, c'est mise à leur disposition. Le postulat de base, c'est de dire que probablement, il n'y a pas de livres aussi à la maison. Et que le fait d'être en contact du livre, ça leur arrive, ils peuvent lire, ils regardent, d'autres ils déposent, d'autres demandent à prendre et à retirer et les porter à la maison. Là, c'est la bibliothèque un peu plus pour les adultes. C'est des équipements qui sont mis à la disposition, mais ce n'est pas évident que les habitants viennent aussi pour prendre des livres.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast « Pourquoi tu cries ?» Jean-Marc Ega. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est ici ?
Eh bien, vous êtes dans les locaux du comité Mamega qui se trouve dans les quartiers nord de Marseille et plus particulièrement au sein du Grand Saint-Barthélemy. La Busserine est beaucoup plus marquée dans la mesure où il y a tous les médias. Dès qu'il y a des faits divers, ils viennent ici pour dire effectivement qu'est-ce qui s'est passé, qui a tiré les Kalachnikovs et autres. Or, nous ne sommes pas là pour stigmatiser un peu plus les quartiers. Je pense qu'ils sont suffisamment forts et puissants pour pouvoir le faire, de se passer de nos services et de faire réellement autre chose. Pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en exergue les actions positives qui se passent sur les quartiers, qu'il y a des associations qui militent énormément, que le Grand Saint-Barthélemy qui est l'ensemble des quartiers, y compris avec la Busserine, il y a un vivier associatif extrêmement riche et puissant qui existe depuis des années et que je pense que beaucoup de secteurs envieraient le Grand Saint-Barthélemy par rapport à ces vies associatives, au-delà des difficultés financières qu'elles peuvent rencontrer et des moyens qui ne sont pas forcément à la hauteur des enjeux qui se jouent aujourd'hui.
Et qu'est-ce qu'on y fait au sein de cette association ici dans vos locaux ?
Nous, dans nos locaux, nous savons que des actions, comme vous pouvez voir, ce sont beaucoup de dessins. C'est une action de Carrefour Autour du Livre où il y a un atelier Mamélie qui reçoit des enfants de 6 à 12 ans. Nous sommes dans un processus qui est celui de l'inclusion et non de l'exclusion. Par exemple, il y a une action que nous menons aussi qui est l'aide au devoir. Nous accueillons des enfants et parmi ces enfants, il peut y avoir des enfants qui sont en difficulté, non seulement par rapport, ils viennent juste d'arriver de Mayotte, par exemple. Donc la barrière de la langue est extrêmement importante, avec beaucoup de retenue de ces petits qui sont très réservés. Nous accueillons aussi un voire deux enfants qui sont autistes. Nous ne sommes pas du tout spécialisés pour l'accueil de ce type de troubles. Nous avons des enfants qui se rencontrent des problèmes 10, mais nous accueillons tout ce monde parce que les centres sociaux, au-delà de leur bonne volonté, ne peuvent pas accueillir un nombre d'enfants extrêmement nombreux et importants sur le quartier par rapport aux besoins que peut avoir ce quartier-là. Donc ça fait partie et ponctuellement nous faisons aussi des actions de conférences dans le cadre de cette activité Carrefour Autour du Livre. Conférence, la dernière, c'était la plus emblématique à mon sens, c'était accueillir Patrick Chamoiseau lorsqu'il a sorti notamment son ouvrage Frères migrants. Le postulat de base était de dire que le Grand Saint-Barthélemy a toujours accueilli des vagues successives de nouvelles communautés qui sont arrivées jusqu'à présent. Et qu'à un moment donné, en termes d'objectif, ce qui serait le souhait auquel j'aspirerais, c'est que ces communautés puissent devenir de plus en plus fraternelles, dans le sens où qu'elles puissent avoir conscience que le fait de vivre ici, c'est ensemble, hein, c'est dans le cadre de vivre ensemble, mais aussi qu'il faut qu'elles puissent prendre conscience que vers ce que nous devons tendre, c'est vers une communauté, la construction d'une communauté de destin. C'est-à-dire que nous sommes ici et ce n'est pas évident que les enfants qui naissent ici retourneront dans le pays qui était ceux de leurs parents. Et de plus en plus, cela se voit. Cela s'observe, par exemple, là, dans l'histoire du quartier du Grand Saint-Barthélemy, nous avons pu observer que dans les années 70, jusqu'aux années 70, il y a eu toute une... Lorsque j'ai grandi ici, dans ce quartier, il y a eu une population qui était très cosmopolite, composée surtout de populations de classe ouvrière. de type européenne, surtout il y avait des Italiens, Espagnols, Gitans, Maghrébins, Antillais, Africains et autres. C'était très multiethnique, mais avec un dénominateur commun qui était celui de l'appartenance à une classe ouvrière, classe populaire. Donc avec tout ce développement de solidarité, d'entraide et autres. Et dans les années 70, avec la crise pétrolière, il y a eu la fermeture de petites usines qui travaillaient dans le port. J'avais des amis qui, à l'époque, préparaient des CAP de tourneurs, de fraiseurs, des petits boulots, et qui travaillaient justement dans les petites unités économiques qu'il y avait autour du port. Et ces petites unités économiques ont fermé au moment où il y a eu la crise pétrolière et que les gens de souche européenne ont été amenés à partir, à quitter aussi le quartier au fur et à mesure et aller s'installer à l'extérieur. Il y a notre ami Karima Berich qui est sociologue. À l'époque, nous avons rédigé, c'est surtout elle qui a rédigé un ouvrage qu'on appelle Monsieur Tyr, un marchand de biens, sur toute cette histoire. Le constat qu'elle avait établi, c'est que d'une mixité sociale, et mixité sociale, c'était substituer une mixité ethnique.
Il était une fois un marchand de biens, Monsieur Tyr. Il était une fois un marchand de biens, arrivant de son Algérie natale pour travailler en France. Quelques villes le retiendront le temps d'occuper des postes d'ouvriers. Puis dans les années 1950, il décide de s'installer à Marseille. Là, il pose sa valise et son échoppe. Une petite alimentation en bordure d'un bidonville sur lequel seront édifiés de grands ensembles HLM. Il y restera plus de 40 ans. Ce marchand de biens s'appelle Monsieur Tyr. Tout le monde l'appelle ainsi. Mais qui est ce Monsieur Tyr dont on parle encore et qui a marqué la mémoire de centaines d'habitants du Grand Saint-Barthélemy? Que l'on ait habité le bidonville ou une cité proche de sa boutique, il est quasiment la première personne que l'on croise. En effet, les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus se souviennent, à peine installées dans leur baraque de fortune ou leur nouvel appartement, de leur rencontre avec Monsieur Tyr lors d'un achat. Le souvenir le plus marquant reste celui d'un commerçant qui offrait des friandises aux enfants et des boissons aux adultes, mais aussi celui d'un homme qui a toujours fait partie de la vie de la cité. Charmia, sa fille, se rappelle. Qu'il fasse beau ou froid, du lundi au dimanche, tôt le matin, dès 5h ou 6h et tard le soir, mon père vivait pour sa boutique.
Il y a l'émission de radio aussi, qui est une action, les échos du Grand Saint-Barthélemy, se fait avec Radio Galère, en direct du comité Maméga, avec une possibilité de délocaliser l'émission et qu'elle puisse se faire sur l'extérieur. En 2024, nous avons fait une émission à l'IRTS, l'Institut Régional de Travail Social, qui se trouve au Flamand, avec des étudiantes qui voulaient faire un travail sur la mémoire. Donc nous faisons des émissions avec différents partenaires, différentes institutions et différentes personnes. L'émission précédente que nous avons réalisée et que nous réaliserons là, c'est par exemple recevoir aussi les historiennes qui sont à l'origine du dictionnaire des Marseillaises, qui est cette année qui s'appelle Marseillaise, le dictionnaire. Nous avons toujours des thèmes génériques chaque année. L'année dernière, c'était l'engagement. Cette année, nous avons l'équité, première étape vers l'égalité. Bon, partant d'un postulat que l'égalité n'existe pas au-delà de triptyques que l'on retrouve sur tous les frontons de la mairie, des mairies ou bien quel que soit le lieu. Donc pour nous, c'est important et nous recevons par exemple les amis de cette Santé Environnement pour tous qui font un travail qui est remarquable sur la santé des populations des quartiers nord en se déplaçant chez les habitants, en proposant de travailler par exemple pour Octobre Rose, pour des projets de dépistage, pour Mars Bleu qui serait le dépistage de colorectal, etc. Donc ils font cette démarche que je trouve très intéressante et très importante pour la population. Au regard de leur situation de précarité, plus, et plus ça va, plus se retrouvent en difficulté. Comme autre action que nous menons, il y a Mémoire, Identité, Territoire aussi. Donc c'est une action qui est l'ADN du comité, parce que nous l'avons démarré lorsque nous avons été quasiment créés, c'est-à-dire en 88, et que nous avons considéré qu'il était important que l'on puisse restituer l'histoire individuelle, mais aussi collective du quartier. Donc ce qu'on retrouve, je reviens au livre de Mabou Tyr, il y a des expositions qui ont été réalisées, il y a l'atelier de noms de rue qui nous a permis d'obtenir des noms de rue d'habitants de quartier. Si vous ne connaissez pas le quartier, il n'y avait pas de noms de rue. Nous, les jeunes, lorsque nous étions jeunes, quand quelqu'un venait, un touriste, bon, ou un membre d'une famille venait pour nous dire, demander à quel endroit se trouvait le tel numéro. Nous, on ne connaissait pas. Bon, il n'y avait pas de nom de rue, il n'existait pas tout ce qui existe aujourd'hui. Donc on disait, c'est à côté de telle famille, de tel copain. Donc on allait, on accompagnait, ou on expliquait un peu où ils pouvaient s'orienter. Donc tout ça nous a fait dire que ce serait peut-être bien que l'on puisse développer cet atelier nom de rue. Donc nous avons obtenu aussi, après bien des années plus tard.
C'était quand cet atelier nom de rue?
Je crois que pour Maboubitia, c'est en 2004, quelque chose comme ça. Puis après, nous avons obtenu la rue Aimé Césaire aussi.
Moi, j'entends beaucoup histoire, mémoire et transmission. C'est quoi les raisons de votre engagement dans tout ça?
Mais la raison de mon engagement, c'est que j'ai grandi dans un quartier, j'ai grandi avec une mère qui a énormément compté, parce que, bon, je ne reviendrai pas un peu sur le fonctionnement d'une famille martiniquaise, la place de la femme, surtout de cette génération, la place de l'homme, bon, la femme qui est omniprésente, l'homme qui est là pour sanctionner beaucoup plus qu'autre chose que pour intervenir sur réellement l'éducation des enfants, sauf lorsque cela s'avérait nécessaire. Donc c'est une dame qui était très impliquée dans la vie sociale du quartier, Françoise Egard, notre mère. Donc elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Elle était plus autodidacte, elle lisait beaucoup. Elle est sortie de la Martinique pour épouser mon père qui était militaire à ce moment-là. Donc elle est allée à Madagascar, mon père en tant qu'enfant de colonisé, mais n'était pas conscient, il a fait toutes les colonies françaises. Mais d'abord, il a fait la dissidence, c'est-à-dire en 1939-45, il a fait partie de toute une vague de jeunes martiniquais, comme guadeloupéens ou guyanais, qui ont choisi de traverser le canal de la Dominique pour se rendre dans une île anglophone fond de la Dominique. Et à cette époque-là, c'était là où il y avait les Anglais qui permettaient d'accueillir ce que vous voulez, faire partie de la France libre et de faire partie d'être française pour lutter contre le nazisme en France. Et mon père a fait partie de cette époque-là avec d'autres compatriotes qui ont fait ça. Et ma mère, puis après, lorsqu'elle était arrivée en France, il y avait ce qu'on appelait le bimidum. Le bimidum, il faut remonter dans l'histoire de Martinique, des colonies françaises, où par exemple en décembre 1958, il y a eu des manifestations avec des morts. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu la fermeture des usines, les ouvriers agricoles qui étaient sortis de l'esclavage depuis des années, mais la Martinique est-elle toujours une colonie? Bon, bref. Et donc en 1958, il y a eu des mouvements parce que tous les ouvriers agricoles sont descendus dans le centre-ville et avec une surpopulation, avec des mouvements sociaux et dès qu'il y avait quelque chose qui pouvait déclencher de la colère et surtout une forme de revendication, au-delà du fait qu'en 1958, nous étions déjà devenus département français par la loi du 19 mars 1946, loi dont le rapporteur plus jeune député, c'était Aimé Césaire. Donc voilà, et puis après il y a eu différents mouvements, que ce soit mai 67. Donc tout ça fait que ma mère, qui faisait partie d'une structure, d'une officine pour moi du BUMIDOM, du Bureau des Migrations des Départements d'Outre-mer, parce qu'avec tous ces mouvements qu'il y avait, il y a eu forcément un projet de déporter les Antillais guyanais, de déporter surtout les intellectuels qui étaient enseignants et autres, qui travaillaient dans le service public, donc de les déporter, de les envoyer en France pour pouvoir travailler et autres. Donc ma mère était ici, elle a rencontré aussi des étudiants, elle faisait partie de l'association pour revenir, le BUMIDOM a créé une officine que l'on appelait l'amicale des Antillais. Amicale des Antillais, des travailleurs antillais guyanais. Donc c'était une officine qui était dirigée par des notables antillais qui accueillaient les femmes antillaises et entre autres ça fait l'objet d'un livre de ma mère qui s'appelle La Traîne Noire.
Je suis un cobaye volontaire. Je rengaine mon envie de mettre mon tablier au mur et je recommence à brosser. Là je me demande comment cela doit se passer pour mes sœurs qui n'ont nulle part où se réfugier en cas de révolte, qui sont obligées de rester nuit et jour en compagnie de telles bonnes femmes parce qu'elles ont un voyage à rembourser. En 1962, Françoise Aigat se fait embaucher comme femme de ménage au sein d'une famille de la bourgeoisie marseillaise. Cette dactylographe farouchement indépendante aurait pu choisir une autre voie, mais elle veut vérifier de ses propres yeux les conditions de travail que lui décrivent des centaines de jeunes femmes débarquées des Antilles et placées comme domestiques dans les riches demeures de la cité phocéenne. Ce qu'elle découvre dépasse l'imagination. Françoise Aigat organise alors ce journal authentique et la trace de ce combat. Une préface de Daniel Pénac.
J'entendais l'indépendance, la situation de Martinique, la situation de Guadeloupe, qui est l'indépendance des colonies, parce qu'à l'époque, ils disaient que c'était toujours des colonies au-delà de cette mascarade que représentait la départementalisation, qu'ils étaient toujours sous la dépendance de la France et qu'il fallait couper un peu ce lien de dépendance. Donc tout ça, j'ai grandi un peu dans cet esprit-là. Ma mère, elle regardait la télévision, surtout quand il s'agissait de voir un peu quelle était la situation, parce qu'à l'époque, la situation aux États-Unis était encore pire que celle de la France, avec tous les crimes racistes qui se développaient, et c'était le racisme systémique qui était institutionnalisé. Je ne dis pas que cela disparaît aux États-Unis, mais c'était un peu plus violent avec les manifestations, les chiens qui attaquaient les Afro-Américains à l'époque et autres, comment ils étaient élevés, ces chiens, et dressés plutôt, pas élevés, mais dressés pour attaquer un peu lorsqu'il y avait des manifestations, y compris pacifiques. Donc moi, j'ai commencé à lire surtout les livres en lien avec toute cette histoire des Noirs américains, que ce soit les Black Panthers et autres. Donc les frères de Jackson, qui disaient, bon, il y a autres, Angela Davis, tout ça, ça fait partie aussi de ma culture et de sensibilisation par rapport à la situation du racisme et qui j'étais. Ça m'a permis de me déterminer aussi.
Aujourd'hui, actuellement, qu'est-ce qui pourrait faire ou qu'est-ce qui fait que ce cri continue de votre côté?
Eh bien, qu'est-ce qui pourrait bien continuer à me faire crier tout? La situation internationale, pour démarrer actuellement, bon, entre le choix des électeurs, c'est en Europe qu'aux États-Unis ou ailleurs, les différentes guerres qui continuent, et pour certaines qui sont complètement tues, dont on ne parle pas, que ce soit la République démocratique du Congo ou bien d'autres du continent africain. Et donc, ce que cela soit ailleurs, que sur tous les continents, que ce soit aussi tous les pouvoirs qui sont dictatoriaux, qui sont bons pouvoirs, des dérives de certains, tels que apparemment Lula, bon, au Brésil aussi, qui a suggéré certaines dérives, et tout ça, effectivement, ne fait que me mettre un peu en colère, mais c'est une colère continue. Qu'est-ce qui pourrait me faire crier au niveau national? C'est bien sûr les idées du Rassemblement national aussi, qui se propagent au fur et à mesure et qui passent comme des lettres à la poste, sans forcément beaucoup de réactions, que nous pourrons nous retrouver du jour au lendemain, parce que ça fait tellement longtemps que ça a démarré, qu'ils ont eu de plus en plus la parole, que l'on puisse se retrouver en 2027, vous savez avec qui. Donc voilà, donc je finis par désespérer un peu. Mais peut-être qu'il y aurait une lueur, comme je vous disais tout à l'heure, c'était de, malheureusement, la situation en France, la situation internationale, la situation du continent où il y a une guerre tribale, Ukraine, Russie, que l'on puisse avoir besoin de monde parti comme c'est parti, avec des combattants en guerre, que l'on puisse se retrouver confronté à une guerre, malheureusement, ce que je ne souhaiterais absolument pas, que l'on puisse demander aux réfugiés qui se retrouvent là à de pouvoir combattre pour obtenir et verser leur sang, l'impôt du sang pour devenir français aussi à un moment donné. Après, la grosse interrogation que je peux avoir avec une inquiétude certaine, c'est est-ce que les jeunes du quartier, compte tenu de la marginalisation dont ils sont l'exclusion dont ils vivent, les difficultés de discrimination qui sont toujours aussi omniprésentes, tout pourrait me faire crier, me dire que voilà, dans ce contexte-là, et surtout avec une forte inquiétude concernant mes petits-enfants, j'en ai trois, et je ne sais pas quel monde qui sera, d'un point de vue écologie et autres, dans quel monde seront-ils amenés à évoluer.
L'engagement que vous avez porté et que vous portez toujours au sein du comité ici et ailleurs. C'est quelque chose que vous avez transmis à vos enfants et vos petits-enfants?
Je n'ai qu'une fille, hein. Je n'ai pas... Bon, parce que déjà, de par le travail que je faisais, j'étais éducateur. Et lorsque je travaillais avec ces enfants qui étaient dans de véritables souffrances, je me posais la question si c'était juste avoir des enfants et faire des enfants. Donc c'était un gros questionnement, moi, que je puisse avoir ma fille. Donc ma fille est informée de ce que je peux faire parce qu'elle a l'information que je transmets, mais compte tenu de mon absence, je pense beaucoup, hein, donc sur certaines choses, que j'ai fait certains choix de vie, et je pense que je ne suis pas le seul parmi mes camarades, que les enfants ne suivent pas forcément le même chemin, mais ils savent quel est mon engagement, qu'est-ce que je fais sur Haïti, sur d'autres points, qu'est-ce qui m'importe aussi. Donc, mais la transmission se fait par une information, mais pas par un engagement sur le terrain, peut-être plus tard, lorsque ces enfants auront grandi, que peut-être qu'elle pourra faire quelque chose.
Ce que j'entends dans ce que vous venez de me raconter, c'est qu'il y a aussi peut-être un coût personnel à l'engagement, en fait. Il y a tout le temps qu'on met dans la lutte et dans les combats et le reste, en tout cas.
Oui, ça demande beaucoup de temps. Ça fait partie de certains choix de vie. Bon, mais je suis né ici. Peut-être que c'est l'exemple de ma mère aussi, bon, qui a fait que je suis comme cela, que j'essaie de continuer. Et que peut-être ça m'empêche de trop vieillir trop rapidement et peut-être de lutter contre Alzheimer aussi aujourd'hui. Donc, je n'en sais rien, mais bon. Et cela me permet de pouvoir suivre un peu ce qui se passe, de ne pas être en retrait de tout ce qui se passe, de tout ce qui se peut. Donc ça c'est mon bureau, mais il ne faut pas regarder le foutoir. Je n'ai pas le temps de ranger. Mais j'espère bien qu'à un moment donné, ça sera quelqu'un d'autre qui prendra la relève.
Bon, merci.
De quoi ? J'ai beaucoup parlé.
Mais c'était le
but. Comment ça ? Non,
c'était
non,
pas à moi de parler. Merci en tout cas.
Oui.
C'était Pourquoi tu cries, un podcast d'Approche Culture et Territoire, réalisation Colline Charbonnier.